Bonjour à tous, merci de votre présence. Je vais essayer de vous empêcher de faire la sieste. Je suis ancien habitant de Castanet-Tolosan, où je reviens avec plaisir. On y a vécu avec mon épouse et nos deux garçons 5 ans, de 2008 à 2013. Et je remercie les organisateurs de l'Université chrétienne d'été de Castanet de m'avoir donné cette occasion de revenir dans cette commune. Le thème qui m'a été proposé et que j'ai hardiment et probablement de façon un peu téméraire choisi, l'éternelle tentation du pouvoir, association, service public et Église. Vous avez, pour certains d'entre vous, déjà assisté, participé aux 5 conférences précédentes. Donc je vous prie par avance de m'en excuser, probablement dire des choses qui ont déjà été dites. Pire encore, je vais peut-être dire des choses différentes de ce qui a déjà été dit sur certains aspects. Ça nourrira les débats que vous allez avoir entre vous, puis le temps d'échange, de questions-réponses de la fin de la séquence de cet après-midi. Parce que je pense qu'il y a des façons très très variées d'aborder la question du pouvoir et du service. Et la variété et la qualité des intervenants précédents me met la barre très haut en ce qui concerne cette dernière intervention. La tentation du pouvoir, de ce que j'ai réussi à lire et de ce que j'ai pu vivre, est très clairement un des ressorts de l'âme humaine et au passage un des ressorts de la tragédie antique. Donc ça fait longtemps que les auteurs s'y intéressent comme étant un élément important. L'exercice du pouvoir, la prise de responsabilité, et certains d'entre vous dans l'Assemblée ne me démentiront sûrement pas, est absolument indispensable à la vie en société, chacun étant appelé à travailler au bien de tous et pouvant, dans certaines circonstances, être appelé plus spécialement à travailler pour le bien de tous. Dans toutes les structures de la société, qu'on soit en entreprise, qu'on soit en collectivité, qu'on soit en parti politique, en association, et bien évidemment, je n'oublie pas l'Église, les Églises, la noble ambition de contribuer personnellement au bien de tous, qu'on l'appelle le bien commun ou l'intérêt général, n'empêche pas tout individu, aussi bien intentionné soit-il, de glisser d'un engagement au service des autres, à la tentation de faire prévaloir son intérêt personnel dans, voire avant, la cause prétendument servie. Je vais vous proposer quelques détours dans cette conférence. Et le premier, quand nous parlons de pouvoir, de quoi parlons-nous ? Dans un contexte d'Église, et notamment de l'Église catholique romaine, le catéchisme nous propose de définir ainsi la liberté comme le pouvoir, enraciné dans la raison et la volonté d'agir ou de ne pas agir, de faire ceci ou cela, de poser ainsi par soi-même des actions délibérées. Par le libre arbitre, chacun dispose de soi. Donc vous voyez déjà l'articulation entre liberté et pouvoir. Et si on accepte cette définition, qui, vous vous en doutez, n'est pas celle d'un dictionnaire, mais bien celle du catéchisme de l'Église catholique, où est le problème ? On va aller voir dans le dictionnaire. Pouvoir, nous dit un dictionnaire, c'est le verbe pouvoir, c'est être en capacité de, avoir la permission de, avoir le droit d'agir, avoir le droit d'exercer certaines fonctions. Donc vous voyez déjà 4 acceptions, 4 sens différents qui tournent bien, qui définissent bien les contours du verbe pouvoir, qui a des sens complexes dans la langue française comme dans la plupart des langues européennes. Résumons en disant, pouvoir, c'est faire ce qui est possible, pour autant que ce soit licite. Ce que souligne dans la langue anglaise le fait qu'ils sont distingués 2 verbes. Le verbe can, qui signifie être en capacité de, et le verbe may, qui signifie avoir la permission de. D'où la formule que les professeurs d'anglais utilisent régulièrement quand on confond les 2 verbes. You can, but you may not. Tu as la possibilité de, mais tu n'as pas la permission de. Donc déjà, en tout cas dans la langue anglaise, opposition entre ce qu'on a la capacité de faire et ce qu'on a la permission de faire. Dès lors, si on aborde les choses comme ça, la tentation du pouvoir n'est pas celle de faire tout ce qu'on est capable de faire et qu'on a le droit de faire, car agir ainsi relève du libre arbitre de la volonté de chacun de nous. La tentation du pouvoir, c'est la tentation d'exercer sa liberté sans limite, en imposant la sienne aux autres, au détriment de leur propre liberté, par la force, par la contrainte, par la ruse, par la manipulation. Donc là encore, attention à ce que nous mettons derrière les mots. Plus un mot est polysémique, c'est-à-dire plus il a de sens, et plus il va permettre soit de laisser entendre l'un des sens alors qu'on pense clairement à un autre, soit de rester dans l'ambiguïté. Et depuis Talleyrand, nous savons que nul ne sort jamais de l'ambiguïté qu'à son propre détriment. Un petit retour en arrière. Qu'est-ce que je fais devant vous cet après-midi ? Qui suis-je pour vous parler du pouvoir ? Clairement, je ne suis pas du tout familier de ce type de conférence. J'ai déjà eu des face-à-face pédagogiques avec des élèves dans l'enseignement supérieur, mais sur des sujets très techniques que je maîtrisais à peu près correctement. Ce qui n'est pas du tout le cas, c'est cet après-midi où on m'a demandé un exercice fort intéressant, mais où j'ai dû faire beaucoup de recherches, d'où certaines faiblesses que vous trouverez dans mon exposé ou dans mon raisonnement. Je suis d'abord un époux de Laurence qui est dans la salle. Je suis ensuite un père de deux garçons. Je suis également professionnellement un ingénieur de formation forestière. Vous voyez, ça mène à tout. Qui a exercé déjà pendant une quarantaine d'années dans des rôles de chef de service ou de directeur. Donc là, j'ai déjà très concrètement eu à mettre en œuvre des pouvoirs, y compris des pouvoirs de police judiciaire, mais je ne m'étendrai pas là-dessus. Mais si vous cherchez Bruno Sinotti et pouvoir, vous allez tomber automatiquement sur ce livre qui fait de moi le spécialiste mondial d'un sujet qui intéresse personne. J'ai été engagé dans des associations, dont parfois j'ai été membre du conseil d'administration. Ça me permettra de faire un détour, quelques minutes, sur le pouvoir dans les associations. J'ai même été trésorier ou président d'association. Et je me suis rendu compte, lorsque j'ai été invité par les organisateurs de cette université d'été, que mon intervention risquait d'être fort une relecture critique de ces années déjà nombreuses. Donc nous sommes dans une espèce de thérapie de groupe à mon service. Je vais sérieusement tenter d'éviter cet écueil. Ma vie ne vous intéressera probablement pas. Comme je vais tenter d'éviter un autre écueil qui lui fait face, d'une intervention qui serait désincarnée, dans laquelle je vous parlerai de façon savante, en tout cas plus ou moins savante, mais de manière beaucoup trop théorique, de cette tentation du pouvoir. Ça me paraît d'autant plus important que, je le redis, cette tentation du pouvoir, elle nous concerne tous. Je vous propose d'abord de faire un petit détour par les situations multiples de tentation de pouvoir. Et comme je ne résiste devant aucun risque, je vais prendre un joli couplet pour illustrer le pouvoir dans le couple, un joli couplet de la chanson de Serge Lama, Le Triomphe. Amoureux il était, maladroit et servile, il aurait en un baiser tous ses cheveux. Il avait, disons-le, presque l'air imbécile quand il ne voulait pas en être un à ses yeux. Mais depuis qu'il l'a eu, depuis qu'il la possède, maintenant qu'il l'a mise dans le fond de son lit, il n'y a plus que pour sa fête qu'il est encore gentil. Eh ben oui, le pouvoir, ça peut être la volonté de décider pour deux ou pour toute la famille une fois qu'on s'est approprié l'autre. Donc on est bien dans le pouvoir au sein du couple, on est bien dans le pouvoir au sein de la famille. Je fais ça pour ton bien. Ça signifie pas plutôt je sais ce qui est bon pour toi, j'ai décidé pour toi. Ceci sous la pression du regard des autres et de la société qui juge de l'extérieur, en tout cas pour notre société française, qui porte la culotte quand elle ne renvoie pas à l'expression ancienne de chef de famille qui, vous vous en doutez, ne désignait pas madame, longtemps privée de ses droits civiques et civils. Suis-je bien sûr, c'est valable pour vous, comme pour moi cette question, suis-je bien sûr de ne pas être un conjoint tyrannique ni un manipulateur comme il en existe, et pas seulement dans le sens de la domination de la femme par l'homme, puisque le sens inverse existe aussi. Celle que j'ai choisi d'aimer et qui est dans la salle vous dira à la pause bien mieux que je ne peux le faire ce qu'il en est chez nous. Car oui, la tentation du pouvoir et ses pathologies existent déjà dans cette société élémentaire qui est la cellule familiale. Deuxième champ d'observation, l'entreprise. Le pouvoir en entreprise, c'est de décider la direction que doit prendre l'entreprise, d'organiser le travail des autres. Et des jolies expressions comme « qui c'est le patron ?» ou « c'est moi qui décide ?» ou autre « règle numéro 1, le patron a toujours raison, règle numéro 2, quand le patron a tort, la règle numéro 1 s'applique. » Ça peut être vécu de façon humoristique, mais parfois ça traduit des situations réelles qui ne prêtent pas à rire. Certes, il y a une légitimité, il y a une nécessité d'une direction claire de l'entreprise, mais il n'y a pas que les petits chefs qui succombent à la tentation du pouvoir. Et dans les grandes entreprises, l'organisation de la chaîne hiérarchique et une certaine déshumanisation des relations entre les personnes peuvent être facteurs d'une personnalisation accrue de l'autorité et d'un renforcement du pouvoir personnel. Permettez-moi quelques instants de faire référence à ce monument de littérature morale que sont Les Misérables du grand Victor Hugo. Pour un monsieur Madeleine, dévoré par le remords d'avoir agi sans discernement, combien de petits contremaîtres minables qui exercent leur pouvoir sur les pauvres fantines. Un président de syndicat professionnel qui voulait que je régale ses administrateurs aux frais d'un établissement dont j'avais la direction, ce que j'avais aucune raison de faire, m'a déclaré « Vous ne voulez pas payer le repas ? Bon, tant pis, ils mangeront pas. » L'homme de pouvoir prétend décider pour les autres, mais sans les autres, voire contre eux. Troisième champ d'observation, le champ associatif auquel j'associerai également le champ syndical, pour des raisons que vous allez voir. Au sein de ces structures, associatives ou syndicales, plus compliqué encore est la répartition des rôles dans ces mondes, avec une surcharge affective de responsabilité, parce que le bénévolat, forcément, on veut le bien. On est dans un sentiment d'utilité sociale conjugué avec la volonté de faire communauté. Une association, c'est un peu une bande de copains qui ont envie de faire la même chose, n'est-ce pas ? Et un syndicat, c'est un groupe de personnes qui adhèrent à un projet de réforme ou de révolution du monde du travail. Il n'y a donc aucune raison, puisque l'association est à but non lucratif et que le syndicat veut défendre les intérêts de tous et de chacun, que l'on l'ambiance y soit pourrie par des enjeux de pouvoir. Et pourtant, lui, il est trésorier parce qu'il aime l'argent. Quand on a besoin de quelque chose, on croirait que c'est le sien. Vous avez jamais entendu ça en association? Ou encore, ça fait 15 ans que je suis président de cette association. Ils me doivent tout et ils ont décidé d'élire un autre président. C'est vrai, j'ai toujours dit que je voulais qu'on me remplace, mais franchement, vous avez vu qu'ils ont choisi?
Tourneur à 14 ans, à 30 ans contremaître. Dans l'usine, c'était de très loin le meilleur. Et pour le comité d'entreprise, peut-être le plus persuasif de tous ses orateurs. Mais depuis que l'État l'a nommé pour qu'il vienne servir de trait d'union entre base et sommet, on murmure à la chaîne qu'il aurait bien changé.
Serge Lama parle pour moi. En collectivité publique, et sous le contrôle vigilant de l'orateur de ce matin. En collectivité publique, la légitimité de chaque acteur est renforcée par la participation à la chose publique, qui a pour but d'assurer le bien commun. Or, selon une formule attribuée à Gandhi, mais j'en ai pas la certitude, tout ce que vous faites pour moi, sans moi, vous le faites contre moi. Comprenez-moi bien, il y a beaucoup de personnes dévouées au service de leur collectivité parmi les élus. C'est même une majorité. Mais à l'inverse, je vous révélerai sûrement pas un secret en vous disant que certains élus sont moins soucieux du bien commun que de leur réélection future, donc de la défense des intérêts particuliers de leur électorat, intérêts particuliers dont la somme, quelque considérable qu'elle soit, n'a rien à voir avec l'intérêt général. Je ne vous révélerai sûrement pas un secret en vous disant que d'autres ne négligent pas leur enrichissement personnel dans la recherche de la bonne gestion de la chose publique et du service du bien commun, et que, pris la main dans le sac, ils protestent de leur bonne foi et de la nécessité d'être dégagé de tout souci matériel pour pouvoir se consacrer pleinement à la chose publique. Belle excuse. Vous vous rappelez ce ministre qui les yeux dans les yeux, etc. Que dire de ces élus, mais aussi de ces hauts fonctionnaires de la République qui se font ouvrir la route dans les embouteillages à coups de gyrophares et de sirènes, voire à coups de bottes de leur escorte motocycliste dans les carrosseries des voitures des manants qui ne s'écartent pas assez vite. Ayant eu professionnellement à travailler avec des responsables ministériels de deux pays scandinaves où il n'y a ni huissier, ni policier des voyages officiels, ni escorte, je puis témoigner que la sacralisation de la personne des élus et des hauts fonctionnaires dans notre pays contribue puissamment à les isoler du monde réel, et à leur donner la grosse tête. Que dire de ces élus qui s'approprient à ce point la chose publique, la res publica, quand ils en arrivent à affirmer « Cette loi, je l'ai votée en tant que parlementaire, mais en tant qu'élu local, je l'appliquerai pas. » Je vous le garantis sur facture, j'en ai un à votre service dans les Yvelines. Cette dernière attitude rejoint d'ailleurs celle du fonctionnaire qui décide de sa seule autorité de ne pas appliquer la loi, non pas pour s'en tenir à l'esprit des lois, plutôt qu'à leur application littérale, ce qui serait une attitude plutôt éclairée, mais pour marquer son pouvoir discrétionnaire de plaire à un tel ou de déplaire à tel autre. Ou plus mesquin encore, de ne surtout pas déplaire et de poursuivre paisiblement le cursus solorum qui le comblera d'une belle carrière et de nombreuses distinctions. Et oui, il est des hauts fonctionnaires dont le déroulement de carrière dépend de la vie des élus sur lequel ils sont censés assurer le contrôle de l'égalité. Quand il y a ce type de conflit d'intérêts, en morale, c'est ce qu'on appelle une structure de péché. Nous avons les élus que nous méritons. Et en miroir, combien d'électeurs qui attendent de l'élu un passe-droit, une faveur, qui se comportent en courtisans, qui ne manqueront pas pourtant de dénoncer ensuite l'élu qui a abusé de leur servilité ou le fonctionnaire qui n'a pas voulu se livrer à ce jeu. Donc tout cela est assez ambivalent. Alors heureusement, on a oublié la vénalité des charges de l'ancien régime, mais au moins les choses étaient claires, on achetait un pouvoir. Pour se rappeler de qui il tenait le pouvoir, puisque je viens de faire référence à l'ancien régime, le roi de France, lorsqu'au sortir de son sacre il guérissait les écrouelles, devait prononcer la formule « Le roi te touche, Dieu te guérit ». Le roi, malgré la splendeur de la cérémonie qui venait de se dérouler et qui faisait de lui, monarque de droit divin, le souverain de ses sujets, quel vilain mot les sujets, le roi n'était que le ministre de Dieu. Et certains rois n'acceptaient-ils pas la présence d'un fou du roi dont l'insolente liberté de parole était en réalité une sage sécurité, un contrepoids à la prolifération de courtisans serviles plus avides des miettes de pouvoir que du bien commun? Combien d'élus, combien d'agents publics qui devraient se voir rappeler plus souvent qu'ils ne sont en démocratie que les délégataires, les serviteurs, en un mot les ministres de la volonté du peuple et de l'intérêt général? Le mot ministre m'amène à faire un peu de sémantique si vous le voulez bien. Dans un de ces spectacles, l'artiste québécois Gilles Vigneault sifflait. Un ministre. Quand on pense à ce que ça coûte, à ce que ça sert, un ministre. Pour Cicéron, un ministre, c'est l'agent de l'État, c'est un fonctionnaire public, c'est celui qu'on emploie pour l'exécution de quelque chose. Pour Virgile, pour rester dans le domaine romain et latin, un ministre, c'est un domestique, une personne attachée à la maison d'un prince, c'est un serviteur, c'est celui qui est au service de quelqu'un. Dans ministre, il y a mini, tout petit. À notre époque, il n'y a plus guère que les ministres du culte qui se considèrent comme des agents ou comme des serviteurs. Les autres Nos ministres, les auteurs latins, les auraient plutôt qualifiés de magister. En effet, pour Cicéron, le magister, c'est un directeur. C'est une personne qui dirige ou un maître, celui qui enseigne. Pour d'autres auteurs, c'est un patron, un chef d'une entreprise, un directeur. Ainsi donc, et j'en terminerai là-dessus en ce qui concerne la sémantique, le glissement a fait du ministre, tout petit, serviteur, un magistre, mot qu'on devrait utiliser et non pas celui de ministre, parce que ce sont en réalité des gens qui dirigent. J'ai gardé le meilleur pour la fin. En Église. En Église, si la répartition des rôles dans les mondes associatifs et syndical est compliquée par la surcharge affective de responsabilités liées au bénévolat et au sentiment d'utilité sociale, conjuguée avec la volonté de faire communauté, tout cela est encore plus exacerbé en Église, avec une surcharge supplémentaire qui est liée au sentiment d'être dans le vrai. Combien de personnes qui exercent un service parce que personne ne veut le faire, ou qui font tout pour écarter tous ceux qui pourraient venir les aider, et pourquoi pas les remplacer tant qu'on y est. Dans l'Église catholique romaine, celle que je connais le mieux, le clerc mis à part par l'ordination, diacre, le prêtre ou l'évêque, le religieux, le consacré, le laïc en mission ecclésiale, le chantre, et même la responsable du fleurissement de l'humble chapelle peuvent être tentés d'oublier qu'ils ne possèdent rien qu'ils n'aient reçu. Ils ne possèdent rien qu'ils n'aient reçu. Ils peuvent être tentés d'oublier que toute mission est reçue et qu'elle peut être retirée, et qu'au bout d'un certain temps, il vaut mieux qu'elle le soit retirée. Et qu'il n'y a donc aucune sagesse à se croire propriétaire d'une mission comme d'autres qui auraient acheté une charge. La citation de Serge Lama est moins efficace sur ce thème-là, mais j'aime bien chanter. Ce n'est pas par hasard qu'il a pris la soutane. À 20 ans, il était un abbé merveilleux, connaissant l'évangile sur le bout de son âme, et il aimait les hommes autant que le bon Dieu. Devant tant de vertus, il est monté en grade, aux fêtes liturgiques, aujourd'hui on le voit, en habit de parade, faire le signe de croix. Le cléricalisme, le pharisaïsme, l'intégrisme guettent l'Église en permanence, guettent les membres de l'Église, tous en permanence, et guettent d'une manière générale toute structure humaine qui propose une vérité. Pouvoir quand tu nous tiens. La tentation de pouvoir, c'est, je vous le disais en introduction, de glisser d'un engagement au service des autres à la tentation de faire prévaloir son intérêt personnel. Elle est souvent complémentaire de la tentation de l'avoir. En faisant les recherches pour cette conférence, je suis tombé sur une référence qui m'a beaucoup intéressé, que je vais utiliser un peu largement. C'est celle de Jean-Pierre Friedman, qui est un psychanalyste et qui a étudié plus spécialement les questions de pouvoir, qui en a fait un ouvrage et qui pense à travers tout ce qu'il a pu observer, un caractère expérimental, que la première constante présente chez les hommes, les femmes de pouvoir, concerne l'éducation. Beaucoup des personnes qui sont en situation d'excès de pouvoir ont eu une relation quasi fusionnelle avec une mère hyper protectrice et gratifiante, et à l'inverse un rapport conflictuel, hostile, méprisant ou simplement distant avec leur père, et que c'est dans ce cadre familial initial qu'ils trouvent le moteur de leur course au pouvoir, parce que de la relation à la mère, ils tirent une confiance et une assurance qui gonflent leur narcissisme, leur plaisir d'être admiré, et de leur relation au père, ils tirent une volonté mégalomaniaque de prouver de quoi ils sont capables. Donc on est vraiment dans le caractère pathologique psychiatrique. La seconde constante qu'observe Friedman tient au rapport que ces personnes ont avec le pouvoir. Ils identifient le pouvoir à leur vie. Le pouvoir leur apparaît comme un gage d'éternité. C'est d'ailleurs pour ça que trop souvent ils veulent le garder à tout prix, à n'importe quel prix. Et ne pouvant accepter l'idée de la mort, ni que le monde peut leur survivre, ils s'y accrochent. Ce faisant, ils agissent un peu comme des enfants qui seraient persuadés que le monde leur obéit et qu'ils ont puissance sur le monde parce qu'ils ont le pouvoir. Cette vision du pouvoir, Friedman nous la qualifie d'abord comme une preuve d'immaturité, notamment dans la relation par rapport aux parents. Il donne quelques exemples dont quelques cas célèbres ont été cités. Pour parvenir au pouvoir, ils commencent d'abord par se donner bonne conscience, ils choisissent des causes, mais au moment d'opter par exemple pour la droite ou la gauche, ils optent par stratégie. On connaît un ancien Premier ministre de la République qui a expliqué tranquillement qu'il était allé dans un parti parce qu'on ne lui avait pas proposé la place qu'il souhaitait dans un parti opposé. Et donc, Friedman en tire la conclusion que ce type de dérive par rapport au pouvoir et leur caractère pathologique est absolument inévitable, et qu'au fur et à mesure que ces personnes progressent dans la conquête du pouvoir, leurs convictions finissent par passer au second rang et que le pouvoir s'auto-alimente. Ce que Friedman appelle la soif du pouvoir. Et il dit, de façon assez terrible, que le seul moyen d'y échapper, c'est de refouler les désirs de toute puissance et d'accepter d'obéir et de composer. C'est vrai que le comportement de certains engagés en politique, et là encore j'insiste, je n'en fais en aucun cas une généralité, tant s'en faut, ça ne les porte pas naturellement à accepter d'obéir et de composer. Friedman poursuit en disant que le pouvoir agit comme une drogue, plus on y goûte, plus on en redemande, et il insiste aussi sur le fait qu'il ne faut pas penser que ça n'arrive qu'aux autres, que c'est une addiction qui peut toucher tous ceux qui sont en situation de pouvoir, pas spécialement dans le monde politique, et il insiste en disant que donc personne n'est à l'abri des possibles dérives émanant de l'exercice du pouvoir. Ça nous amène à préciser encore un petit peu les choses. Ça a peut-être déjà été précisé par la psychologue qui est intervenue devant vous dans une conférence précédente. A été décrit le symptôme d'hubris ou maladie du pouvoir, qui a été décrit d'ailleurs depuis assez longtemps, puisque Pascal, déjà dans un discours sur la condition des grands, très important d'éduquer les futurs puissants dès leur enfance, parce qu'à l'époque on était quand même en situation de pouvoir pour des raisons de transmission familiale. Et il insistait sur le fait qu'il fallait rappeler que la détention du pouvoir tenait en fait en réalité au hasard, en disant surtout, ne vous méconnaissez pas vous-même en croyant que votre être a quelque chose de plus élevé que celui des autres, car tous les emportements, toute la violence et toute la vanité des grands vient de ce qu'ils ne se connaissent point, qu'ils ne connaissent point ce qu'ils sont. Plusieurs livres ont même été jusqu'à analyser les rapports entre la maladie et le pouvoir, et des auteurs anglo-saxons ont décrit cette hubris comme une maladie spécifique, dont le tableau clinique est assez riche. Et d'abord redéfinir ou définir ce qu'est l'hubris. Hubris, qui signifie syndrome de la démesure, vient du grec ancien. Le concept a été développé par la philosophie grecque, en particulier chez Platon et Aristote, mais on le retrouve maintenant dans la psychanalyse, qui est une science relativement récente puisqu'elle date de la fin du 19e siècle. Et ce concept, qui au départ est un concept de théâtre, se caractérise par le fait que dans des grandes épopées, le succès monte à la tête du héros et que du coup, il prétend se hisser au rang des dieux. Vous savez combien dans la mythologie gréco-romaine, mais déjà dans la mythologie grecque, qui est plus ancienne que la romaine, le héros, c'est celui qui tangente la divinité, mais qui n'y parvient jamais, évidemment, puisqu'il est toujours impitoyablement remis à sa place. Et donc, toute la tragédie grecque autour de... toute la philosophie grecque également autour de l'hubris renvoie en permanence aux conséquences funestes de cette démesure. En français, il n'y a pas de mot unique qui permettrait de traduire le mot hubris. Les anglo-saxons l'ont repris tel quel du grec. La traduction la plus simple, ce serait orgueil démesuré. L'orgueil, on connaît tous. C'est un des sept péchés. Au passage, je vous conseille le livre de Pascal Hyde, et notamment le chapitre 2 ou 3 sur l'orgueil, qui, sans aborder les questions de pouvoir, nous remet bien notre place en ce qui concerne l'orgueil et notre façon de nous mentir à nous-mêmes pour ne pas nous sentir orgueilleux. L'hubris, ce serait un orgueil démesuré. Démesuré et rendu particulièrement démesuré par l'exercice du pouvoir. J'ai trouvé amusant, et vous me pardonnerez d'utiliser le temps qui m'est imparti pour ce joli catalogue, j'ai trouvé amusant de vous donner la liste des 14 symptômes que M. Owen, qui est un spécialiste de l'hubris, propose dans son livre « Dans la maladie et le pouvoir ». Premièrement, pour être atteint du syndrome d'hubris, il suffit de présenter au minimum 3 des 14 symptômes que je vais vous présenter. Premièrement, inclinaison narcissique à voir le monde comme une arène où exercer son pouvoir et rechercher la gloire. Deuxièmement, prédisposition à engager des actions susceptibles de présenter l'individu sous un jour favorable, c'est-à-dire pour embellir son image. Narcissisme là aussi. Troisièmement, attrait démesuré pour l'image, encore une fois, et l'apparence. Quatrièmement, façon messianique d'évoquer les affaires courantes et tendance à l'exaltation. Toute ressemblance avec des personnes existant ou ayant existé. Cinquièmement, identification avec la nation ou l'organisation, au point que l'individu pense que son point de vue et ses intérêts personnels sont identiques à ceux de la nation ou de l'organisation. Sixièmement, tendance à parler de soi à la troisième personne et à utiliser le nous royal. Septièmement, confidence excessive en son propre jugement et mépris pour les critiques et les conseils d'autrui. D'où l'importance du fou du roi dont je vous parlais tout. Huitièmement, impression d'omnipotence sur ce que l'individu est personnellement capable d'accomplir. Nos limites. Neuvièmement, croyance qu'au lieu d'être responsable devant ses collègues ou l'opinion publique, le seul tribunal auquel il devra répondre sera celui de l'histoire. Dixièmement, croyance inébranlable que le jugement de ce tribunal lui sera favorable. Bah évidemment. Onzièmement, perte de contact avec la réalité est souvent associée à un isolement progressif, surtout quand on est entouré d'une cour abondante et qui se garde bien de vous dire la vérité sur vous-même. Rappelez-vous le conte d'Andersen sur les habits du roi, avant qu'il découvre par un enfant qu'il était en réalité nu et qu'il s'était fait rouler. 12e, agitation, imprudence, impulsivité. 13e, tendance à accorder de l'importance à leur vision, à leur choix, ce qui leur évite de prendre en considération les aspects pratiques ou d'évaluer les coûts et les conséquences. Enfin, 14e, incompétence hubristique lorsque les choses tournent mal, parce qu'une confiance en soi excessive a conduit le leader à négliger les rouages habituels de la politique et du droit. Vous trouverez quelques éléments en français, si vous voulez approfondir ça, chez le neuropsychologue Sébastien Di, qui travaille sur le laboratoire de neurosciences cognitives à l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Donc vous voyez de nombreux points communs dans cet exposé progressif que je vous ai proposé, dans ces constats que j'ai essayé d'alimenter avec des éléments de référence. Est-ce que tout cela est irrésistible et y a-t-il ou non des réponses face à cette éternelle tentation du pouvoir ? Eh bien, sans optimisme excessif, la tentation n'est jamais irrésistible. Quelques clés simples pour s'armer, pour résister à la tentation du pouvoir, pour chacun d'entre vous, dans sa famille, dans son couple, le cas échéant, en association, en syndicat, en entreprise, dans les pouvoirs publics ou en église. Premièrement, le discernement. Le discernement, eh bien, c'est la première résistance à la tentation du pouvoir. Alors, discernement au sens ignatien du mot, c'est-à-dire la capacité à prendre tous les éléments qui m'amènent à questionner. Question simple, suis-je attentif à la façon dont j'assure le service qui m'est confié, le pouvoir qui m'est délégué? Suis-je attentif à la façon dont j'utilise l'autorité qui m'est déléguée? Est-ce vraiment pour mener à bien le travail qui m'est demandé que j'agis? Est-ce que c'est vraiment au bénéfice de ceux dont je n'oublie pas que je suis le serviteur? Suis-je désintéressé? Ce qui nous amène au point suivant, le désintéressement. N'aurais-je pas la faiblesse de me servir au passage, ou plus grave, de me servir avant les autres, ou plus grave encore, de me servir au lieu de servir les autres? Pour plagier un Premier ministre, la pente est forte, mais la descente est facile. Et donc, n'est-ce pas dans le remplacement de l'intérêt général, du bien commun par mon intérêt général, je sais ce qui est bon pour les autres, puis mon intérêt propre, le discernement est clairement un critère, pour moi-même, lorsque je suis en situation de service ou de pouvoir, et pour les autres, pour évaluer la façon dont la personne à qui on a délégué le pouvoir exerce ce pouvoir, exerce cette autorité. L'humilité. Je vous disais tout à l'heure que le psychanalyste Friedman considérait qu'une façon de résister à la tentation, c'était d'accepter d'obéir et de composer. C'est pas simple. Et l'humilité est joliment définie par André Comte-Sponville dans son petit traité des petites vertus, des grandes vertus. Il définit l'humilité comme la vertu de l'homme qui sait n'être pas Dieu. Et effectivement, la tentation de la personne qui est au pouvoir, c'est de se croire seul maître, de préférence à la place de Dieu, voire en niant son existence. La vertu de l'homme qui sait n'être pas Dieu. Alors dans l'écriture, sous la plume de l'athée qui est André Comte-Sponville, la référence est intéressante. Et je pense effectivement que quand on est reconnaissant à celui ou à ceux qui nous ont délégué un pouvoir, quand on ne se croit pas le meilleur, quand on ne se croit pas supérieur aux autres, on est peut-être moins tenté, on l'est toujours, mais on est peut-être moins tenté d'imposer sa volonté aux autres. Dans le cadre d'une université chrétienne, vous m'en voudriez de ne pas citer saint Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 10, versets 9 et 10. C'est donc très volontiers que je mettrais plutôt ma fierté dans mes faiblesses, être fier de ses faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je pense qu'on définit difficilement mieux l'humilité que dans ce bref passage de cet épître de saint Paul. Et vous avez sans doute en mémoire que la deuxième tentation du Christ, c'est précisément la tentation du pouvoir que lui propose Satan. L'humilité n'est pas chrétienne. L'humilité existe déjà dans la philosophie grecque antique. L'humilité passe par la connaissance de soi-même, le gnotiseuton des philosophes grecs antiques. En particulier, et c'est là que la philosophie grecque antique est développée par la lettre de saint Paul, dans le fait de connaître ses faiblesses, de les accepter et d'en faire des points d'appui. Mais quand on connaît ses faiblesses, on est moins tenté de se croire tout puissant. Quatrième réponse pour résister à la tentation du pouvoir, je mets en un seul paquet écoute, bienveillance et respect. Vous voulez vous mettre au service? Vous voulez exercer un pouvoir? pas, bah, je vous dirai ce que m'a dit un jour un directeur spirituel. Vous avez une bouche et deux oreilles, c'est clair, il faut que vous écoutiez deux fois plus que vous ne parlez. Au moins deux fois plus. C'est assez facile de se rappeler, donc je le répète. Une bouche, deux oreilles, donc vous devez écouter deux fois plus que vous parlez. Si pour assurer un service, vous écoutez les autres et qu'ils peuvent le constater, si vous accueillez toujours avec bienveillance leurs paroles, ce qui ne signifie évidemment pas tout prendre pour argent comptant, ni cause toujours, si vous savez montrer ces deux marques de respect, votre autorité n'en sera évidemment pas amoindrie. Et les autres comprendront mieux quel est le service que vous assurez et quelle est la part que vous y prenez, et surtout le fait que ce service, ce pouvoir, vous l'exercez dans le respect de celui pour lequel il est assuré, ou ceux pour lesquels il est assuré. Dans un vieux livre que malheureusement on n'a pas pu mettre en librairie dans la pièce à côté, un livre de Lemaire, qui est un prêtre qui écrivait dans les années 1974, l'esprit de service. J'ai trouvé cette série de caractéristiques de l'esprit de service en Église. En Église, les ministres se situent dans l'Église et certainement pas au-dessus des autres. En Église, les ministres assurent une fonction dans l'Église. Là encore, ils sont dans l'Église et leur fonction est dans l'Église. Les ministères sont des dons de l'Esprit Saint. Les ministres exercent l'autorité du Christ et le Christ, à ma connaissance, n'a jamais exercé le pouvoir dans un exercice autoritaire et encore moins autoritariste. Cette autorité est un service et non une domination. Cette autorité est au service de la bonne nouvelle, de l'Évangile. Cette autorité est au service de la communauté. Ça me paraît très important de se situer dans ce contexte-là, non pas parce qu'à l'appel du frère Jean-Marc qui m'a fait un drôle de cadeau et à la suite de l'appel de l'évêque de Toulouse, j'ai fini par être ordonné diacre dans le diocèse de Versailles, mais je pense que tout service en Église, tout ministère dans l'Église, à commencer par le ministère de celui qui doit diriger, enseigner et sanctifier, l'évêque, tout ministère est un don de l'Esprit et un don à la communauté, avant toute chose. Et tout ministère peut être repris. Certains clercs l'ont vécu, douloureusement peut-être pour leur ego, mais l'ont vécu probablement dans l'intérêt de la communauté. Et Friedman, auquel je reviens temporairement, dit peut-il exister un homme de pouvoir idéal? Et il nous dit, en psychanalyste, l'homme de pouvoir idéal serait celui qui, par un processus de sublimation, aurait la volonté d'assouvir son narcissisme et sa mégalomanie, difficile de les nier quand ils sont installés, mais en les sublimant, en les mettant au service du plus grand bien de l'humanité. Mais prudemment, il ajoute, sauf que l'histoire montre que le pouvoir est redoutable et qu'à de très rares exceptions près, il débouche sur le désir d'en abuser. D'où, pour faire le lien avec le champ politique, la vraie supériorité du régime démocratique, qui ne doit en aucun cas être la dictature de la majorité. Parfois, ça peut paraître cela. Alors, ce serait encore pire si c'était la dictature de la minorité organisée par le droit démocratique. Non, il qualifie, et c'est intéressant de voir un psychanalyste parler de la démocratie, il qualifie le régime démocratique comme celui qui est fondé sur le souci de limiter le pouvoir personnel. Et effectivement, et je n'ai pas développé tout ce que peuvent dire des ouvrages très sérieux sur le pouvoir politique, mais à la suite de Montesquieu, on sait très bien que l'important quand il y a un pouvoir, c'est d'organiser de façon structurelle et forte les contre-pouvoirs, de façon à ce que le pouvoir ne soit pas exercé de façon solitaire. Au passage, il est intéressant aussi de lire dans Friedman le fait que pour que quelqu'un exerce son pouvoir, il faut que des gens lui obéissent. Nous ne sommes pas tous spontanément des rebelles, parce que parfois, obéir à une loi, obéir à une autorité, obéir à un pouvoir, c'est adhérer à un groupe et y trouver une sécurité, une identité, une valorisation. Et comme on a le plus souvent besoin d'un groupe solide, eh bien, on a parfois tendance à abandonner sa liberté entre les mains d'un leader ou d'une autorité qui assure la sécurité en échange d'un abandon de la liberté individuelle. Toute ressemblance avec des époques existantes ou ayant existé. Et, bien évidemment, ce jeu de dépendance de celui qui a besoin d'être admiré dans son pouvoir et de ceux qui ont besoin d'être sécurisés par l'exercice d'un pouvoir est un jeu qui est un jeu dans lequel des sociétés peuvent abandonner leur liberté pour bénéficier d'une plus grande sécurité et donc renforcer le narcissisme et la mégalomanie de celui auquel ils ont ou de ceux auxquels ils ont délégué ce pouvoir. Je m'approche de ma conclusion et je rassure donc Agnès qui est en train de dévorer sa montre des yeux. Je m'approche de la conclusion en insistant sur cette notion de contre-pouvoir. Je pense que, quelle que soit la structure, que nous soyons dans le monde syndical, associatif, c'est plus difficile en entreprise évidemment, puisque l'entreprise est organisée en fonction d'autres nécessités. C'est évidemment très vrai dans le monde politique, ça doit l'être également en Église. Il faut toujours, je le crois, faire attention à ce que le pouvoir, comme le dit là encore Friedman, soit affaire d'équilibre, de répartition des forces et des tensions, et de contrôle du pouvoir par des contre-pouvoirs. On est dans une logique de dynamique constante. Si, comme j'ai essayé de vous le développer, le pouvoir est une tentation éternelle et qu'il est peu aisé d'y résister, il est important aussi d'éviter les structures de péché, au contraire de se mettre en situation de pouvoir contrer ces pouvoirs, de pouvoir limiter ces pouvoirs, de leur rappeler quelle est l'origine, surtout en démocratie, de cette délégation d'autorité. Il n'en demeure pas moins que l'homme de pouvoir est celui qui se met au service. La fraternité que le Conseil constitutionnel vient d'honorer d'un très bel arrêt vous pouvez lire dans le journal officiel paru ce matin même. La fraternité bannit la volonté de puissance et le service bannit la tentation du pouvoir. La fraternité bannit la volonté de puissance et le service bannit la tentation du pouvoir. Or la fraternité, un peu souvent oubliée, est quand même l'un des trois éléments de notre devise républicaine. Et si elle n'est pas là, la liberté est rapidement la liberté de faire tout ce qu'on a envie de faire sans se préoccuper des autres. Et l'égalité ne peut naître rapidement qu'une revendication permanente d'égalité de droit, ce qui rapidement peut également bloquer les choses, voire faire émerger les pouvoirs à caractère démagogique. Celui qui aime ne calcule pas, il ne recherche pas davantage. Il agit dans le secret et gratuitement pour ses frères, sachant que tout homme, quel qu'il soit, a une valeur infinie. Dans le Christ, il n'y a pas de personne inférieure ou supérieure. Il n'y a que les membres d'un même corps qui veulent le bonheur les uns des autres et qui désirent construire un monde accueillant à tous. Par des gestes d'attention et par notre participation active à la vie sociale, nous témoignons à notre prochain que nous voulons l'aider à devenir lui-même et à donner le meilleur de lui-même pour sa promotion personnelle et pour le bien de toute la communauté humaine. La fraternité bannit la volonté de puissance et le service, la tentation du pouvoir. Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, en 1997, lors de son voyage apostolique à Paris, à l'occasion des 12e journées mondiales de la jeunesse, dans sa rencontre avec les jeunes. J'espère que beaucoup de jeunes ont entendu et retenu cette partie de son discours qui est totalement d'actualité. Tout cela en abandonnant toute tentation du pouvoir, toute tentation de posséder toujours davantage ou de rechercher son propre intérêt au lieu de servir la famille humaine. Aller de l'avant de manière constructive et féconde dans les différents rôles et responsabilités signifie avoir la capacité d'analyser, de comprendre et de donner, en abandonnant toute tentation du pouvoir, de posséder toujours davantage ou de rechercher son propre intérêt au lieu de servir la famille humaine, et en elle, en particulier ceux qui possèdent le moins, ceux qui souffrent encore de la faim et de la malnutrition. Discours de notre pape François aux participants de la 38e session de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Deux grands hommes, l'un déjà canonisé, l'autre qui est peut-être candidat. Pourquoi ai-je fait, et ce sera ma conclusion, un lien entre l'attitude au sein du couple et de la famille et l'exercice du pouvoir au sein d'une entreprise, en association, en politique, en église? Dans tous les cas, l'exercice du pouvoir peut relever d'une vision narcissique. J'ai besoin que tu me regardes de façon amoureuse, mais ça m'intéresse aussi bien de te contrôler, toi mon aimé. Certes, nous formons une famille, mais j'aimerais quand même bien que les choses tournent comme j'ai envie qu'elles tournent et pas en laissant un tel prendre le dessus. Je suis en entreprise et j'aimerais bien que les choses se passent comme je veux qu'elles se passent. Et même chose en association, et même chose en syndicat, et même chose en politique, et même chose en église. Cette tentation du pouvoir est vraiment une tentation qui nous travaille tous dès que nous sommes à l'approche de pouvoir exercer une autorité ou simplement de pouvoir user d'une situation, et cette tentation va être alors d'en abuser. Si le problème est d'ordre psychologique, voire psychiatrique, quelles approches, quelles attitudes doivent être développées pour éviter cette éternelle tentation du pouvoir? Eh bien, comme je vous l'ai déjà dit, discernement, désintéressement, humilité, écoute, bienveillance et respect. On est là encore dans des attitudes qui sont éminemment christiques, éminemment attentives à l'autre, éminemment respectueuses de l'autre, et c'est sans doute ce qui est un des éléments forts de la bonne nouvelle du Christ, c'est cette nécessité de considérer l'autre non pas comme un sujet de mes désirs, de mes tentations, mais comme un autre être. Et je vous engage, si vous en avez la possibilité, à consulter les écrits du père Maurice Zundel, qui n'est pas très connu, qui est décédé, mais qui explique très bien comment le chrétien doit être dans le décentrement, qu'il doit cesser de considérer qu'il est le centre du monde et que les autres ne sont que des planètes, des satellites qui tournent autour de lui. Maurice Zundel développe l'essentiel de son message, de la compréhension qu'il a des textes de l'écriture, dans cette nécessité qui fait que nous ne pouvons rencontrer Dieu en nous que si nous commençons par nous vider de nous-mêmes. Non pas être un ectoplasme, mais pour laisser la place à Dieu, il faut que nous fassions un peu la place de nous-mêmes, qui finissons par être encombrants à nous-mêmes d'une certaine manière, et c'est ce qu'il appelle le décentrement. D'une manière générale, c'est donc une attitude essentiellement personnelle qui va permettre de lutter contre cette tentation, mais tentation pour tentation, je ne résiste pas à celle de vous citer un ouvrage fort intéressant mais mal connu de Claude Gau, qui s'intitule joliment « Comment tuer l'État ?» Petit précis, de malfaçons et malfaisances. Alors, je n'ai à titre personnel aucune velléité de tuer l'État, rassurez-vous. Néanmoins, je vous lis deux extraits d'une double page de ce livre, au cœur du livre. Le dépérissement de l'État est souhaité par ceux qui privilégient leur liberté aux dépens de celle des autres, qui haïssent l'égalité et qui sont gênés par la fraternité. Tiens donc, c'est-à-dire par la solidarité. Ils lui préfèrent une charité réduite à l'aumône. Leur référence au libéralisme tente de masquer, sous un terme plaisant, la réduction de leur intérêt à une valeur unique, le pouvoir donné par l'argent, particulièrement bien adapté à une extension au monde de leur champ d'action. Et un tout petit peu plus loin, Claude Gaud continue. Je crois en un État toujours imparfait, inachevé, redéfinissant en permanence un ensemble de règles exprimant la volonté collective qui s'impose à tous et dont la transgression est sanctionnée. Il est la structure indispensable, cet État, pour maintenir les équilibres entre les droits individuels et l'intérêt collectif. La qualité de ce qu'il produit ne peut être assurée que par une interaction permanente et exigeante entre les décideurs et les citoyens. A contrario, et c'est moi qui commente, certainement pas entre des citoyens qui auraient définitivement délégué par l'élection leur pouvoir à quelqu'un qui l'exercerait de façon définitive. Enfin, et on en discutait ce midi avec l'une des personnes dans cette salle, le mot d'ordre, c'est servir. J'habite en face d'une des écoles, une des classes préparatoires les plus prestigieuses à Versailles, la classe préparatoire qu'on dénomme sous le sobriquet de Ginette, une très belle BJ, une très belle boîte à jésuites dans laquelle on forme des gens qui sont destinés à participer à l'élite de la nation, et ce sont des gens triés sur le volet, mais pas uniquement dans les mêmes classes sociales comme dans certains autres établissements. L'une des forces de cette école, c'est de faire attention aussi à la mixité sociale. Et la devise de cette école, où l'on forme des gens qui sont destinés très clairement à être parmi les puissants de la nation, c'est servir. Et je terminerai avec une dernière citation, toujours de notre pape François. N'oublions jamais que le vrai pouvoir, c'est le service. Merci de votre attention.